Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 7 millions de personnes qui agissent pour le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Nous agissons dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Solidarité, impartialité, indépendance sont nos grands principes.
Des radios vassivières, bienvenue à ces nouveaux rendez-vous avec Amnesty International, plus précisément avec l'antenne Creuse. Je suis en présence de Dominique Damien et Dominique Duranton. Salut.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des droits humains en Colombie. Je suis bien placée pour échanger avec vous puisque je suis colombienne. Donc voilà, ravie de pouvoir exposer une partie, ou faire un aperçu de l'histoire des droits humains en Colombie. C'est pas évident parce que c'est beaucoup d'années charnières. Donc, on va faire un petit historique et puis voilà, on va échanger sur les contextes aussi actuels de la Colombie.
Alors oui, je vais vous parler des droits humains bafoués en Colombie, qui est un pays important d'Amérique latine. Et comme vous l'avez compris, on a la chance aujourd'hui d'avoir, on aura la chance au cours de ma présentation, d'avoir l'intervention d'une Colombienne qui va pouvoir apporter son témoignage très précieux. La Colombie, c'est un pays qui a été marqué par 52 années de conflit opposant les forces armées et les FARC. FARC, hein, je rappelle, c'est Forces Armées Révolutionnaires de Colombie. C'est un conflit qui prend fin par un accord de paix qui a été signé en avril 2016 à La Havane. C'est un accord qui met un terme à la plus grande guerre civile en Amérique latine. Mais la mise en œuvre de cet accord est très lente et la violence continue d'affecter un certain nombre de régions. Il faut savoir qu'une grande partie des atrocités que les Colombiens ont endurées pendant des décennies n'étaient pas liées en fait au combat entre les forces de sécurité et les FARC. De nombreuses personnes défendant les droits, protégeant les ressources naturelles et les territoires ancestraux contre de puissants intérêts économiques, continuent à être victimes de harcèlement et d'attaques meurtrières. Et il est à craindre que cet accord de paix ne puisse pas grand-chose pour garder ces militants en sécurité. Depuis 1985, ils sont près de 7 millions à avoir été forcés de fuir leur domicile. Plus de 267 000 ont été tués, 46 000 ont été victimes de disparitions forcées et 30 000 pris en otage. Des milliers d'autres ont été victimes et sont encore victimes de tortures, de violences sexuelles et de mines antipersonnelles. Et rares sont les responsables présumés qui ont été traduits en justice.
Tout à fait, donc tout ce que tu nous racontes est vrai. C'est vraiment un résumé bref de toute cette histoire atroce. Et pour faire écho à ton propos, j'aurais souhaité aussi parler des faux positifs, falsos positivos. Donc, tu as fini par dire voilà, que les responsables présumés qui ont été traduits en justice sont moyennement suivis. Ben, au jour d'aujourd'hui, il y a Álvaro Uribe Vélez, un de nos présidents qui est resté dans les pouvoirs pendant plus de 20 ans et qui a donné l'ordre. On appelle ça, c'est même une campagne qui est rattachée à Amnesty, qui a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre des quoi ? Des tuer, des massacrer, des torturer, des faire des chiffres. Donc l'armée de cette président Álvaro Uribe Vélez demandait des chiffres précis, exacts. Du coup, ce qui faisait aussi les paramilitaires et enfin, les forces armées colombiennes, c'était de retrouver des enfants, des jeunes, des adolescents, des conditions économiques pas très aisées, et ils le raptaient, les kidnappaient, et ensuite ils les déguisaient des guerrilleros pour les tuer et le mettre dans des fosses communes. Et dire, voilà, c'est des guerrilleros. Mais là, on connaît tous les témoignages des maires des Soacha, à Bogota, et dans plein de régions en Colombie, qui ont mené des actions juridiques pour justement prouver que ces enfants, c'était que des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants avec des problèmes, des troubles du comportement ou des handicapés. Et du coup, comme c'était des personnes qui, entre guillemets, on les voyait une cible facile. Donc, c'était les premiers cibles pour être capturés et puis ensuite tués horriblement et présentés comme une chiffre. Parce que c'était l'importance de montrer les chiffres. Donc, Erika Guevara Rosas, directrice des Amériques Amnesty International, déclare que les séquelles de ces violations et l'impunité qui caractérisent la plupart des abus sur les plans humanitaires et celui des droits humains persistent. C'est clair qu'on a des séquelles fortes, profondes. On a l'empreinte de cette violence qui n'est pas finie. Nous voyons aujourd'hui une petite lumière d'espoir, mais on a cette histoire très lourde qui pèse encore sur nos épaules. Et puisqu'on rencontre de plus en plus, comme on dit, des casseroles, c'est-à-dire des fosses communes qui s'ouvrent et disent, ben voilà, ici il y a 300 crins de plus, ça appartient à qui? Donc la disparition forcée, tout ça, là on commence à tisser les liens. Ah bah, il y a des disparus là et les enquêtes s'ouvrent. Donc il existe un véritable risque que cela continue dans un environnement d'après-conflit.
Oui, c'est vraiment terrible et ça fait froid dans le dos d'entendre ton témoignage. Alors les attaques des défenseurs des droits humains, notamment les dirigeants de communautés indigènes, afro-colombiennes et paysannes, se poursuivent à un rythme donc alarmant. La plupart sont liés aux groupes armés qui cherchent à prendre le contrôle des terres riches en ressources appartenant à des communautés rurales en vue de les exploiter à des fins de profit économique. Alors même si le conflit armé avec les FARC est officiellement terminé, d'autres conflits demeurent, notamment avec le groupe de guérilla armée de libération nationale, et ce sont les groupes paramilitaires qui continuent à représenter la menace la plus sérieuse pour les droits humains, en particulier dans les zones rurales.
Tout à fait, et pour revenir à Erika Guevara Rosas, qui déclare que si la Colombie entend réellement faire en sorte à long terme que les processus de paix fonctionnent pour tout le monde, les autorités doivent veiller au respect du droit fondamental à la vérité, à la justice et à des réparations des millions de victimes qui comptent les pays. Donc tout ça s'appelle, c'est une campagne qui a lancé aussi les gouvernements comme réparation et justice pour le peuple. Donc il y a beaucoup des personnes qui ont perdu ces terres, ces vies, dont mes grands-parents qui venaient des Cocorna. Il y a eu les guérillas qui sont arrivés et disent, bah, écoutez, là, vous vous dégagez, les cochons et tout ça, vous le laissez ici, quoi. Vous partez sans rien. Et donc, et du coup, il y a eu tout un processus. Ma famille a été, on va dire, avec cette campagne de réparation, ils ont été à la convoquer et ils ont eu une partie... entre guillemets, de l'argent pour soulager les surfrances, mais enfin, ça ne va pas venir à payer pour toutes ces années de surfrances, tout ce qu'ils ont perdu, leur vie en campagne, à Cocorna, bah, ils sont arrivés à la ville sans rien, avec 6 enfants, c'était hyper dur ces commencements, et je pense que ça a quand même laissé des séquelles très fortes aussi au sein de ma famille. Et pour parler aussi de toutes ces autres familles, des paysans qui habitent dans des zones rurales, donc il y a justement des compensations. Oui, il y a des compensations, comment on va vous compenser suite à ce qui s'est passé pour votre terre et tout ça. Mais ça, c'est toujours quelque chose de petit par rapport à l'envergure qui a été la violence qu'ils ont vécue. Le fait d'être arraché de leurs racines et partir en courant, c'était au partir ou au rester et mourir. Donc c'était quand même une condition très 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 difficile. Et il y a plein de familles, des femmes qui cherchent encore aujourd'hui une justice et savoir où il est, son enfant disparu.
C'est très très poignant parce que effectivement on n'arrive jamais à réparer tout le mal qui a été fait, ça c'est impossible. Il faut travailler à la résistance et ce que font les gens qui là-bas défendent les droits humains à leur risque et péril, hein, parce que vous l'avez compris, oui. C'est très très dangereux. Et continuer à travailler pour l'avenir, hein, principalement. Alors en octobre 2020, Amnesty a émis une série de recommandations en matière de protection des défenseurs des droits humains au niveau national. Cependant, les autorités colombiennes font trop peu pour la défense de ces droits, parce que si l'adoption de lois, de décrets, de normes ne sont pas assorties de mesures assurant leur mise en œuvre, on est dans un modèle de protection qui reste inefficace.
Donc, je te propose de passer un exemple, l'exemple de Jany Silva.
Oui, alors Jany Silva, c'est quelqu'un qui est une femme déjà très très courageuse, c'est une défenseur des droits humains. C'est une femme qui a consacré sa vie à la défense de l'environnement et des paysans dans le sud de la Colombie. Elle lutte contre l'extraction pétrolière, qui fait beaucoup de dégâts, l'accaparement des terres et la déforestation, hein, qui sont liées. Elle milite pour que les accords de paix soient mis en œuvre et elle a été menacée de mort en 2017 et un projet d'assassinat a été dévoilé, ce qui l'a contrainte de fuir son domicile avec sa famille en juillet 2021. Je fais une petite aparté pour dire que beaucoup ont été menacés de mort et tués. Hein. Alors la Colombie est un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits humains. Voilà ce que je disais, plusieurs centaines, hein, d'entre eux ont été assassinés depuis 2016. Et ça, ce qui reste encore aujourd'hui une réalité, dans une impunité presque totale. Alors Jany Silva a dit « Nous ne pouvons pas nous laisser gagner par la peur ». Elle a été un des cas de la campagne internationale 10 jours pour signer de l'an dernier où Amnesty réclamait sa protection. En avril 2021, Amnesty International lui a aussi écrit une lettre du Monde exigeant qu'elle soit protégée. Donc la protection, on l'a eue depuis. Cette lettre est un brassage des centaines de messages ayant été écrits à Jany Silva. Elle se termine comme cela. Je vais vous lire la fin de la lettre. « Jany, ton travail est un baume, non seulement pour la Colombie, mais pour toute la planète. Continue ta lutte. » Nous espérons que cette année 2021 sera plus douce que l'année 2020. Elle l'est déjà. Chaque année qui passe est meilleure que la précédente grâce à ton combat, à ton courage. Amicalement, et c'est signé, Le Monde. Alors Amnesty International donc a obtenu à ce que des mesures soient prises, hein, enfin soient mises en place pour protéger Jany Silva. Et aujourd'hui, malgré les modifications apportées à l'accord de paix, celui-ci n'est toujours pas conforme au droit international et aux normes internationales relatives aux droits humains. En particulier, Amnesty International a dénoncé à plusieurs reprises le fait que des sanctions ne sont pas en rapport avec la gravité de certains des crimes qui sont commis.
Et oui, cet accord a déclaré Erika Guevara Rosas doit déboucher sur la paix pour tous et toutes les Colombiennes et Colombiens, y compris les victimes des violations des droits fondamentaux, les défenseurs des droits humains qui risquent leur vie pour défendre les droits des autres, les communautés rurales qui essayent de protéger leurs terres et les femmes qui ayant connu des violences liées au genre qui s'évadent courageusement pour obtenir justice, il faut que leur voix se fasse entendre. À l'heure où la Colombie s'apprête à mettre en œuvre son processus de paix tant attendu. pour continuer avec cet accord, notamment cet accord de paix, et puisqu'on va enchaîner aussi avec une bonne nouvelle, je veux aussi rebondir avec les nouveaux présidents. Donc, les nouveaux présidents, qui c'est Petro, c'est depuis 200 ans, on n'a pas eu un gouvernement de gauche, un gouvernement qui pense à la planète, un gouvernement qui pense aux autres, au peuple. Et là, c'est vraiment un acte historique qui, nous, les Colombiens et Colombiennes, souhaitons que ça change véritablement. Et pour la toute première fois dans notre pays, on a une vice-présidente d'origine afro, donc une afro-descendante, qui est là pour justement parler de toutes ces impunités, de toutes ces violations aux droits humains. Donc là, on a une petite fenêtre, on va dire, d'espoir pour se dire, enfin, on va pouvoir avancer, avoir un gouvernement qui n'est pas juste dans la parapolitique. Je conseille vivement de regarder une mini-série. C'est une série faite pour télévision, mais elle est interdite en Colombie puisque ça dévoile pas mal de toutes ces actions complètement contre les peuples colombiens, et ça s'appelle Matarife. Donc tout le monde est les bienvenus si vous souhaitez comprendre l'engrenage, parce que c'est tout un engrenage, l'histoire du Colombie. Donc il y a beaucoup des intérêts d'argent, des drogues, des territoires, des pouvoirs, des ressources naturelles. On a fait un peu l'aperçu. Donc, on va continuer avec une bonne nouvelle, dont ça t'est dit ?
Oui.
Dominique.
Oui, donc la bonne nouvelle, c'est en Égypte, puisqu'il y a eu des dizaines de personnes injustement détenues qui ont été libérées après la réactivation en avril dernier de la commission des grâces présidentielles égyptiennes. Ces libérations interviennent alors que l'Égypte se trouve au centre de l'attention internationale en tant que pays hôte de la COP27 sur le climat en novembre prochain. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore 60 000 prisonniers politiques dans les prisons égyptiennes et que les arrestations arbitraires continuent. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, car chaque personne qui est libérée, c'est un plus, bien sûr.
Passons à la pétition.
Alors la pétition, il n'y a pas énormément de nouvelles pétitions sur le site d'Amnesty. Donc je vous appelle à continuer à signer la pétition qui appelle à la libération de Zhang Zan. C'est cette jeune chinoise qui a été emprisonnée et qui est torturée pour ses reportages sur la COVID-19.
Novillo, novillo, novillo. Novillo. Acompáñame, novillo.
Je souhaiterais qu'on puisse inviter nos auditeurs, auditrices, se joindre au groupe Amnesty, participer. Il y a un mail.
Oui, alors ils peuvent nous contacter à creuse@amnestyfrance.fr, 05 55 64 26 84 pour le téléphone.
Bon, merci Dom, merci Dominique.
Merci beaucoup.
Et
merci
puis,
Nini.
On se donne un nouveau rendez-vous avec Amnesty bien prochainement, et on vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute sur les ondes des Radio Vassivière.
Eh bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.